Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission de philosophie, pourquoi pas des philosophes. Aujourd'hui, nous avons invité Jean-Michel Roy, professeur de philosophie à l'ENS de Lyon. Jean-Michel Roy, vous êtes spécialiste en philosophie analytique. Vous avez traduit Russell, vous intéressez aussi beaucoup à la phénoménologie et vous vous êtes consacré à cette discipline nouvelle qu'est l'épistémologie des sciences cognitives. Merci d'avoir accepté de discuter avec nous.
Merci de m'avoir invité.
Comment avez-vous rencontré la philosophie ?
Je ne sais pas d'ailleurs jusqu'à quel point j'ai rencontré la philosophie. Je ne sais pas si la philosophie, ça se rencontre. J'ai l'impression qu'elle est là un petit peu depuis longtemps. Je ne me souviens pas d'un moment où je découvre la philosophie. Mais pour répondre à la question, de la façon suivante, je suis plutôt venu à la philosophie par la littérature. C'est peut-être pour ça qu'il y a une continuité assez forte. Et même si aujourd'hui je m'occupe essentiellement de philosophie de la connaissance et de philosophie des sciences, en fait, je suis un littéraire du départ. Et donc, je lis beaucoup de littérature et je m'intéresse particulièrement à tout ce qui est la littérature, disons, du XVIIIe siècle. C'est comme ça. Et puis en plus, très vite, la théorie de la littérature. Et c'est vraiment ce qui fait le lien vers la philosophie. Je suis entré, je peux dire, dans la philosophie par la littérature. Et en outre, j'étais en ce sens-là en adéquation avec mon époque, puisque c'est une époque justement où dans la philosophie française se développent toutes ces tentatives de réflexion sur les liens entre philosophie et littérature. Et en ce sens-là, je pense que si je n'avais pas été à cette époque-là, je doute que je n'aurais pas fait de philosophie.
Et comment est-ce que vous en êtes venu à en faire votre métier ?
Parce que ça m'a pris, c'était ce que je cherchais. Et en fait, j'en suis venu à faire mon métier parce que je voulais faire de la philosophie. Ce n'est pas parce que je voulais être philosophe professionnel, mais c'est parce qu'être philosophe professionnel était le meilleur moyen, sans doute, de faire de la philosophie. C'est vraiment la raison pour laquelle je suis devenu philosophe professionnel. D'ailleurs, c'est de façon difficile, puisque, vous le saurez un jour, trouver un poste de philosophie est une chose difficile. Il faut passer par le chat d'une aiguille et c'est un processus très long, très lent, très frustrant, très, très contingent. J'aurais très bien pu ne pas être philosophe professionnel.
Et quelle est la première lecture philosophique ou même littéraire qui vous est marquée ?
Étant donné ce que je viens de dire, je suis venu à la philosophie par ce biais-là, et étant donné l'époque, il s'agit essentiellement par des auteurs français, c'est Sartre, c'est Camus, c'est toute la littérature philosophique existentialiste. Et j'ai été, mais c'est jeune, c'est-à-dire avant la classe de philosophie, c'est les années de ce qu'on appelle la troisième, peut-être la seconde aussi, j'ai été très marqué par Camus, par exemple. J'ai beaucoup lu Camus, j'ai été très marqué par la philosophie de l'absurde. Et je conserve beaucoup d'attachement à ces auteurs-là et à certaines de leurs idées, y compris par exemple à Sartre et l'éthique sartrienne, que j'ai toujours trouvé extrêmement intéressante. Et je reste très marqué par ces thèmes-là, en fait, même si je n'ai pas l'occasion beaucoup d'en parler dans ma vie professionnelle.
Est-ce qu'il y a une rencontre avec un philosophe qui vous a particulièrement marqué ?
Il y a deux auteurs qui m'ont particulièrement marqué, qui sont à la source d'une grande partie de mon travail, qui sont respectivement donc Husserl d'un côté et Bertrand Russell de l'autre, de côté de la mer. Mais pour ce qui est des rencontres physiques, puisque je n'ai pas rencontré ces deux grands de la philosophie, il y a des rencontres marquantes, oui, il y en a une série, mais qui ne sont, c'est pas du tout de l'ordre de ces rencontres intellectuelles que je viens de mentionner. Par exemple, pensant au moment de ma formation, c'est souvent le cas. Hein. J'ai été marqué, par exemple, par mon professeur de terminale, qui était Jacerne. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est toujours de ce monde, qui était un heideggerien très, très convaincu. Je n'enseignerai pas du tout la philosophie de cette manière-là pour ma part. Mais en même temps, je crois qu'il m'a beaucoup servi. Beaucoup, beaucoup servi. Même si vraiment je suis sur des positions, y compris au plan pédagogique, tout à fait différentes. Mais à cette époque-là, je pense que si je n'avais pas eu ce type d'approche, je n'aurais pas fait de philosophie. Je ne suis pas venu, par exemple, avec des gens qui travaillent sur un champ scientifique et qui, à partir de là, je ne sais pas, travaillent dans le domaine de la physique ou dans le domaine des mathématiques, et à partir de là, se posent des problèmes de fondement des mathématiques, des problèmes de fondement de la physique, des implications, etc. Ce n'était pas du tout mon cas. Mais ensuite, il y a des rencontres à la fois intellectuelles, amicales, des rencontres de collègues. Je pense, par exemple, quand je suis revenu en France après une période d'éloignement, donc j'avais monté ce groupe de réflexion autour des rapports entre la tradition phénoménologique et les sciences cognitives contemporaines. Rencontre avec Jean Petitot à ce moment-là, avec pas seulement des philosophes. J'ai eu la chance notamment de rencontrer plusieurs des principaux neuroscientists, comme on dit aujourd'hui, de français, donc notamment Alain Berthoz, Collège de France, que j'avais rencontré par le biais d'un colloque que j'avais organisé sur ces thèmes-là à Bordeaux, Francisco Varela, Marc Jeannerot, par exemple, ici. Et ça, ce sont par exemple des rencontres qui me font véritablement progresser dans mon travail. Et plus, en fait, du côté scientifique que du côté philosophique.
Et quel métier auriez-vous fait si vous n'avez pas été philosophe ?
Quand j'étais petit, je voulais être fermier. Je voulais avoir des vaches. Et je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais ça a duré assez longtemps. Donc peut-être pour des raisons de racines familiales. Sinon, je ne peux pas véritablement vous dire. Je crois d'ailleurs que j'aurais fait quelque chose d'assez proche de ce que je fais aujourd'hui d'une manière ou d'une autre, puisque si je n'avais pas eu le métier professionnel de pratiquer la philosophie, j'aurais quand même eu une activité intellectuelle du même type. Je crois que c'est... En fait, on peut faire de la philosophie de différentes manières, mais c'est plus facile, en fait. C'est pour ça, je vais répondre à ces questions tout à l'heure, c'est pour ça que je suis devenu philosophe professionnel, c'est parce que ça me paraissait le meilleur moyen de le faire. Je ne suis pas complètement sûr, d'ailleurs, que ce soit un bon calcul.
Ressentez-vous un écart entre la philosophie pratiquée comme métier, donc la vie universitaire, et la philosophie vécue comme une pratique ?
Je ne sais pas exactement ce que veut dire la philosophie vécue comme une pratique. Je pense qu'il y a des tensions entre le métier de philosophe et la vie intellectuelle de philosophe. C'est-à-dire que d'un côté, comme je le disais tout à l'heure, je pense que exercer professionnellement le métier de philosophe est une des manières de faire de la philosophie qui garantit le mieux l'exercice plein et entier de la chose. Pour des raisons très simples, c'est que ce que je n'avais pas prévu, c'est à quel point le travail philosophique est prenant, absorbant, c'est infiniment long. Et donc il y a besoin pour cela de pouvoir y consacrer un temps maximum. Et en même temps, vous avez toutes sortes de choses qui font que les obligations universitaires peuvent agir comme des obstacles. Parce que d'abord, elles se multiplient. Il y a beaucoup de dysfonctionnements quand même dans la vie universitaire telle qu'elle est organisée. Et puis, il y a toutes sortes d'obligations qui en fait vous éloignent de l'exercice fondamental de la réflexion, qui est ce pourquoi en fait vous êtes engagé dans la chose. Mais c'est vrai sans doute de toutes sortes de choses. Un artiste, c'est pareil. Donc le problème, c'est de trouver le bon équilibre entre les deux choses.
Still the same people. Around two turntables and a mic abounds many who don't look alike. Puerto Rican, black, white, Japanese. It amazes me that we all could be well-versed and well-equipped MCs.
Et est-ce que vous pensez que la philosophie doit avoir un rôle dans la société? Et si oui, quel serait ce rôle selon vous?
La philosophie doit-elle avoir un rôle dans la société? Oui, au même titre. Elle en a, de toute façon, au même titre que toute chose. Ben, je pense que ce rôle, il découle de sa nature même. Après, ça dépend de ce que l'on pense être la nature de la philosophie. Pour ma part, je la conçois, disons, aujourd'hui. Je ne sais pas si je l'ai toujours conçue aussi, mais j'ai stabilisé mes idées autour d'une certaine conception de la philosophie, selon laquelle la philosophie, d'abord, c'est l'étude, ça se conçoit comme l'étude d'un certain nombre de certains types de problèmes parmi l'ensemble des problèmes possibles. Et ces problèmes sont essentiellement, quoique non pas entièrement, puisque, comme ça peut-être, j'aime à définir la philosophie comme l'étude à la fois des questions de principe et d'un certain type d'implication dans le domaine de la connaissance. Donc, selon la manière dont vous définissez la philosophie, le rôle de la philosophie dans la société va être différent. Donc, si on conçoit effectivement la philosophie comme l'étude d'un certain type de questions, donc des questions de fondement, des questions de principe, à ce moment-là, le rôle du philosophe dans la cité, pour reprendre l'expression standard, consiste justement à attirer l'attention, à développer, à contribuer à la réflexion sur ces questions fondamentales. Et ça se fait, à mon avis, par toutes sortes de moyens, mais je ne suis pas sûr que l'activisme sociétal soit forcément le meilleur moyen de le faire. J'ai toujours eu beaucoup j'appartiens à une génération, en fait, c'est aussi un problème générationnel, qui a eu beaucoup de réserves à l'égard d'une certaine figure de l'intellectuel. On a grandi quand même dans une période où les figures de l'intellectuel étaient encore très fortes, hein, puisque c'est à la fois le Sartre vieillissant, tous les personnages, Aron, etc., de la génération de Sartre, et puis les philosophes français des années 60, qui étaient quand même très très médiatisés. Et cette façon c'était à la fois très excitant. En tout cas, quand j'étais jeune, ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a sans doute beaucoup attiré. Ça a été une des raisons pour lesquelles je me suis aussi engagé dans ce domaine-là. Il y a un effet d'attirance, de vouloir être comme, etc. Je pense qu'il est évident, certain, et d'ailleurs tout à fait naturel. Et en même temps, très vite, on a conçu un certain soupçon. Ces gens qui intervenaient surtout, mais en fait, à quel titre véritablement ? Et je suis beaucoup plus en faveur d'une conception de l'intellectuel, en dépit de mon admiration pour Russell, qui a été en fait le grand intellectuel du XXe siècle en ce sens-là, intervenant surtout sur le rouge à lèvres, sur la longueur des jupes des jeunes filles, etc. Je pense que je suis beaucoup plus attiré depuis un certain temps par la figure d'intellectuel comme expert. Et donc, à ce titre-là, je ne pense pas que le philosophe ait du tout forcément des choses plus intéressantes à dire sur toutes sortes de domaines où il n'a aucune expertise. Donc cette idée de l'intellectuel qui, parce qu'il a un champ d'expertise, peut être amené à avoir une parole, peut être considéré comme ayant une plus-value sur toutes sortes de sujets dans lesquels il n'est pas expert, ça je suis contre. Par contre, sur les problèmes où il a une expertise, je pense effectivement qu'il a un rôle à jouer tout à fait dans la cité.
Par exemple auprès des scientifiques peut-être ?
Pas seulement, surtout sur les questions politiques. Aujourd'hui, je pense qu'il y a, dans l'époque où on est, par exemple, il y a des grands sujets. Je pense qu'il y a énormément de confusion dans les grands débats autour des grands débats de société, les choses qui font notre pain quotidien, hein, les problèmes de mobilité sociale, les problèmes d'égalité, les problèmes de discrimination, etc. Donc là, je pense qu'il y a dans les débats contemporains énormément de confusion sur des problèmes principiels au nom de bonnes intentions. Mais le problème, c'est qu'on sait bien que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et là, il est important, je pense que les philosophes, par exemple, par l'exigence, à la fois l'expertise qu'ils ont sur ces questions-là, donc le professionnalisme que normalement ils sont à même d'avoir sur ces questions-là, ont véritablement une plus-value et donc ont un rôle à jouer. Mais ça peut être également, bien évidemment, sur les questions d'implication, sur des questions éthiques, sur des questions épistémologiques, d'un certain nombre d'avancées scientifiques, bien entendu. Oui. Et sur les problèmes de fondement de la connaissance scientifique, bien entendu. Mais je pense aussi d'ailleurs, dans ma vie professionnelle, je me suis rendu compte de ça assez récemment, que les gens formés à la philosophie, au-delà de ce que je viens de dire d'ailleurs, ça peut paraître contradictoire mais ça ne l'est pas, il y a aussi un rôle à jouer de la part des gens formés à la philosophie, pas forcément des philosophes au sens des gens qui ont poussé l'aventure philosophique jusqu'à tenter de produire de la philosophie, mais par la formation philosophique, on a en fait une capacité à problématiser, à réfléchir de façon argumentée et rationnelle qui peut se reporter sur toutes sortes d'aspects. Et je pense par exemple que, pour l'avoir expérimenté moi-même, dans une entreprise par exemple, on a on a quelque chose véritablement à apporter quand on a été formé à la philosophie. On oublie un peu à quel point toutes sortes de gens ont tout simplement du mal à poser clairement des problèmes, à les dérouler logiquement, à structurer la pensée autour de quelque chose. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, la formation philosophique, c'est un peu une question différente, mais qui en est le prolongement, a aussi quelque chose à apporter à la cité, à la société.
Et donc, vous avez choisi comme expertise la philosophie, donc c'est pas forcément une expertise comme une autre, parce qu'elle implique une réflexion sur l'existence, sur les choix de vie que l'on fait.
Ça dépend du type de philosophie, mais enfin, oui, je suis d'accord avec vous, oui, tout à fait. Si on la conçoit complètement, ça implique.
Ça implique
la question,
un peu tous
la
les
question
domaines de
première
la vie.
De Camus, faut-il commencer par se suicider ou pas?
Voilà, donc vous, en quoi vous vivez comme un philosophe?
Je vis comme un philosophe. D'abord parce que c'est ma vie professionnelle, donc je vis comme un philosophe, comme un cordonnier vit comme un cordonnier, un boulanger vit comme un boulanger. Mais au-delà de ça, donc en fonction de ce que je disais tout à l'heure, je vis aussi peut-être comme un philosophe en un sens plus intéressant du terme, au sens où je poursuis l'exploration d'un certain nombre de questions au-delà de l'exercice de mon métier. Est-ce que être philosophe, c'est un métier? C'est un petit peu réducteur. Il y a un aspect vie professionnelle qui est un moyen, en fait, de pouvoir réfléchir philosophiquement. Mais je pense qu'un philosophe, c'est un peu comme un peintre, c'est un peu comme un artiste. Est-ce que être peintre, c'est un métier? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'un peintre enseigne dans une école de peinture, souvent, enfin dans une école d'art, donne des cours, mais ça va bien au-delà. Et en ce sens, il vit en peintre au-delà de l'exercice strict de sa vie professionnelle. Et je pense que c'est la même chose en ce qui concerne, pour ma part, la philosophie.
Et donc, contrairement à d'autres métiers, peut-être vous ne laissez pas vos problèmes philosophiques au bureau?
Non, c'est pas possible. D'abord, en fait, je les traite essentiellement chez moi plus qu'au bureau. Et en fait, c'est quand je viens au bureau, en réalité, que ça, c'est une chose que nos collègues scientifiques ont beaucoup de mal à comprendre. Pourquoi exactement, je sais pas, mais j'ai remarqué que les philosophes travaillent chez eux. Je reviens de Chine, j'ai un collègue chinois qui était là à l'école au mois de juin. Et il est très peu venu au bureau, et c'est pas du tout parce qu'il travaillait pas, mais il restait dans sa chambre parce que c'était le substitut de son chez lui shanghaïais. Mais c'est aussi parce qu'on a tous nos livres, c'est aussi parce que moi je travaille avec, j'ai besoin d'être entouré des livres, j'ai besoin de la disponibilité des livres, donc non, on les laisse certainement pas au bureau.
Unless you tell him to go, zombie not go stop. Unless you tell him to stop, zombie not go turn. Unless you tell him to turn, zombie not go think. Unless you tell him to think.
Comme nous l'avons dit, vous êtes spécialiste en phénoménologie et en philosophie analytique, mais vous semblez aussi sortir des frontières qui sont peut-être un petit peu étroites de l'histoire de la philosophie, en vous engageant dans l'entreprise contemporaine des sciences cognitives, plus particulièrement de l'épistémologie des sciences cognitives. D'abord, comment en êtes-vous venu à travailler sur ce champ de recherche? Et comment définirez-vous le rapport qu'il peut entretenir avec justement l'histoire de la philosophie?
Je suis un historien de la philosophie au départ, mais j'ai quelque chose qui me guide. J'ai un problème général depuis le début et qui a guidé mes travaux historiques en histoire de la philosophie, qui est en gros le problème de la théorie du sens. J'allais dire la signification, mais je préfère le mot de sens. Donc c'est la question de savoir, est-ce que l'on peut avoir une connaissance théorique du sens, des phénomènes de sens, à quelles conditions et quelles en sont, le cas échéant, les implications, et notamment, alors les implications de tous ordres, mais notamment les implications sur les autres champs, sur l'idée même de connaissance théorique et sur les autres champs du savoir, c'est-à-dire là où peut s'appliquer l'idée de connaissance théorique, et en particulier donc les implications d'ordre métaphilosophique, c'est-à-dire sur la nature de la philosophie. Et ça, j'étais d'une constance absolue, et malgré la diversité apparente de mes champs d'intérêt, c'est une exploration extraordinairement systématique de cette question-là. Et donc au départ, je commence par la travailler, et en fait ça vient de, ça c'est par la littérature. C'est-à-dire qu'à partir du type de littérature auquel je m'intéressais, c'est quand même toute cette littérature qui, après mon apprentissage par le XVIIIe siècle, que j'aime beaucoup et qui a été très important, c'est la littérature du XXe, donc c'est la littérature qui explore le langage, ses limites, et donc qui pose le problème de la signification en général. Et c'est en ce sens qu'il y a une continuité, parce que je me suis après intéressé beaucoup aux théories de la signification, que ce soit par les différents programmes de type sémiologique qu'on trouve à cette époque-là, puis ensuite à la philosophie, par la philosophie de la logique, la philosophie du langage analytique, etc. Donc c'est ça qui me guide et qui fait l'unité profonde de mon travail. Et donc il y a eu deux grands champs, qui sont d'une part donc, disons, la première phénoménologie, mais par son biais logique, et puis parce que ce sont exactement les mêmes problèmes, la philosophie analytique. Et ma thèse, par exemple, c'est la question que j'ai explorée, l'ouvrage Rhin et Danube que j'ai publié l'année dernière n'en est que le prolongement, c'est la question de savoir sous quelle forme, quand se met en place et de quel type se met en place une théorisation du sens, comme j'aime à dire, au sein de la philosophie analytique, et en quoi cela se différencie-t-il de la théorisation du sens que l'on peut trouver à la même époque dans la première phénoménologie, puisque ce sont deux champs extrêmement proches. Et à partir de là, j'ai été emmené assez naturellement, d'une part vers la linguistique, que j'ai étudiée en même temps que la philosophie, et vers les sciences cognitives, tout simplement par le cœur de l'hypothèse cognitiviste, qui est une hypothèse extrêmement forte et qui dit qu'il suffit d'être un système symbolique pour être un être pensant. Et donc, étudiant les fondements et les implications d'une théorisation du sens ou d'une théorie de la signification, il était évident qu'il fallait se pencher là-dessus. Alors après, j'ai été pris par d'autres aspects de la question. Mais c'est ça qui fait le lien.
Et donc, quelle serait à ce moment-là votre tâche de philosophe au sein de cette entreprise scientifique ? Est-ce que simplement de clarifier un petit peu la méthode scientifique, de la rendre transparente à son propre savoir ? Ou est-ce aussi pour l'aider à mesurer ce qu'on entend souvent, à mesurer les enjeux éthiques, politiques, sociaux d'un progrès technique, d'un progrès scientifique qu'on ne maîtriserait plus ?
Non, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu tout et ce n'est pas exactement comme ça que je le formulerais. Pour moi, la philosophie et l'exploration d'un certain type de problèmes, ces problèmes sont un sous-ensemble des problèmes qui se posent lorsque l'on veut tenter de construire la connaissance théorique d'un champ de phénomènes. Donc, par exemple, si je prends les sciences cognitives en elles-mêmes, vous avez le champ des phénomènes cognitifs et vous avez l'ambition d'en développer une connaissance de type théorique, de type scientifique, et vous avez un certain nombre de questions fondamentales qui se posent. Et vous avez également des questions d'implication qui se posent. Et je pense que la philosophie est l'espace de réflexion qui concerne les premières et les secondes, c'est-à-dire les questions fondationnelles et les implications de différents types et les implications proprement épistémologiques. Et il y en a qui peuvent être plus pratiques, de type justement éthique. Et donc en ce sens, le philosophe n'est pas du tout une pièce rapportée, c'est pas du tout la cerise sur le gâteau, c'est un élément de l'entreprise scientifique de construction du savoir dans un domaine donné. Et donc j'ai une conception foncièrement scientifique de la philosophie. Je pense que la philosophie fait partie de l'entreprise de construction de la connaissance. Et en ce sens, je ne suis pas un philosophe analytique, en tout cas au sens strict du terme, parce que je pense que c'est un terme extraordinairement aujourd'hui galvaudé. En ce sens, je pense que le philosophe produit des énoncés d'un certain type relatifs à certains problèmes, alors que la philosophie analytique stricte pense que le philosophe ne fait que éclaircir, analyser, notamment au moyen des outils de la logique moderne, les énoncés qui sont produits par les scientifiques.
Est-ce que vous laisseriez définir votre geste philosophique à vous, personnel, comme un geste de pacification ? Je m'explique. Par exemple, dans votre travail au sein de la communauté des chercheurs en sciences cognitives, il s'agit pour vous, par un patient travail de lecture et d'analyse, de clarifier les enjeux de chaque thèse, afin de pouvoir, sachant enfin véritablement de quoi il est question, prendre position. Un autre exemple, dans votre livre « Le Rhin et le Danube », vous abordez les deux traditions dites « ennemies de notre actualité philosophique », avec un regard qui, une fois encore, semble faire de la pacification du débat une condition de son progrès.
Je suis sensible à la façon de vous présenter les choses parce que vous avez saisi quelque chose. En même temps, ce n'est pas non plus dans ces termes-là que je dirais les choses. Mon souci n'est pas de pacifier, mais il est très certainement de ne pas se laisser prendre dans des antagonismes dont je pense qu'ils sont faux. Donc c'est de montrer, de dépasser, si cela est possible, des antagonismes inutiles, stériles, qui m'apparaissent comme des obstacles au progrès de la réflexion. Donc en ce sens, mon objet n'est pas de pacifier. S'il faut guerroyer, je suis prêt à guerroyer. Je ne le fais pas si mal quand c'est nécessaire. Je n'aime pas ça. Et surtout, j'ai horreur de la polémique. Je trouve que la polémique en philosophie, qu'il n'y a pas de place véritablement pour la polémique, ni même pour les fausses passions dans le travail intellectuel. Mais par contre, le déployer ailleurs, oui, tout à fait. Mais dans l'espace de la réflexion, je pense qu'il faut éviter au maximum. Et je pense que le champ, par exemple, des sciences cognitives ou le champ philosophique avec la grande division entre philosophie continentale et philosophie analytique est bourré de fausses... Sinon de fausses oppositions, du moins bourré d'oppositions superficiellement comprises. Et par exemple, c'est pas le Rhin et Danube, mais c'est Rhin et Danube, dans Rhin et Danube, qui reprend une formule de Demet. Non, sinon, ça ferait trop livre de géographie. Dans Rhin et Danube, mon objet, c'est justement ça, c'est de montrer à quel point ces deux courants qu'on prétend être tellement opposés, en réalité, le sont beaucoup moins qu'on lit, et surtout d'essayer de mettre le doigt sur là où se trouve véritablement la différence. J'ai essayé de montrer, en prenant un certain nombre de cas concrets qui m'ont paru importants, de moments clés, comment en fait tous les grands protagonistes du développement de ces deux courants se sont en réalité lus. Il y a eu des contacts intellectuels qui sont parfois plus ou moins directs, plus ou moins développés, mais à quel point ils sont significatifs. Notamment, par exemple, Carnap, c'est pas bien connu que Carnap a véritablement lu Husserl et a été jusqu'à proposer une interprétation husserlienne de son Aufbau de 1928.
Alors, ça tombe mal parce que je voulais vous poser une question un peu polémique.
J'y répondrai pas.
Avez-vous un ennemi philosophique ? Pensez-vous qu'il y ait quelque chose à combattre absolument en philosophie ?
Oui et non. Ça dépend ce que vous entendez par là. Un ennemi philosophique au sens d'une position philosophique sur laquelle contre laquelle il faudrait mobiliser les foules et partir en croisade, certainement pas. Et je n'aime pas du tout, une fois encore, toutes ces querelles d'idées qui, en général, sont parfaitement stériles. Le seul ennemi philosophique que j'aurais, ce serait les pseudo-philosophes, mais ça remonte à... ou les dogmatismes. Donc il y a différentes façons d'être un pseudo-philosophe. Tout ce qui est de l'ordre du dogmatisme est une chose, effectivement, qui me raidit et contre lesquelles je suis prêt à me mobiliser. Mais par contre, il y a des choses que l'on trouve moins intéressantes que d'autres, il y a des choses que l'on trouve franchement pas bonnes. Mais je ne pense pas, contrairement à une pratique qui, au moins à une époque, a été assez répandue, que passer son temps à taper dessus est un quelconque intérêt. Je trouve ça assez inélégant.
Sans vous inviter à mobiliser les foules, pour finir, en guise de conseil aux jeunes philosophes qui nous écoutent, quelle est selon vous la tâche la plus urgente de la philosophie aujourd'hui ?
Est-ce qu'il y a des urgences philosophiques ? L'urgence serait d'accorder plus d'attention à toutes sortes de transformations. Donc brancher plus votre réflexion philosophique sur l'actualité, non pas au sens des faits divers, mais de l'actualité politique, qui est quand même assez d'ailleurs peu intéressante, sur l'actualité notamment scientifique, mais aussi les grandes transformations. Donc, essayer de plus penser le présent. Là où il y a une urgence, c'est un sujet qui me travaille, c'est ce que j'évoquais brièvement tout à l'heure, dans l'ordre des confusions de l'époque. Je pense qu'on est dans une époque extraordinairement confuse et que là, il y a une espèce de devoir philosophique de travailler à développer une réflexion tout à fait rigoureuse.